recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Nos robes sont acceptées par les femmes quand elles sont saillantes et jolies. Voilà pourquoi les robes prennent, et voilà pourquoi les femmes nous acceptent. Et voilà quelle est notre vraie mission. D'abord, c'est de faire les femmes jolies, élégantes, et qu'elles plaisent aux hommes.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici quelques mois, le Musée des Arts Décoratifs à Paris a présenté une exposition intitulée « Tenue correcte exigée » et sous-titrée « Quand le vêtement fait scandale ». Parmi les 400 vêtements et accessoires présentés, figurait une robe portant de larges fleurs bleues. On aurait pu s'en étonner si on ne savait pas qu'elle avait été portée au Palais Bourbon par Cécile Duflot, membre à l'époque du gouvernement de Jean-Marc Ayrault en juillet 2012, lors d'une séance des questions des députés. Et que cette robe d'été avait suscité, au moment où la ministre prenait la parole, une bronca parmi les costumes sombres aligné sur les rangs de l'UMP du côté de la droite. L'épisode de ce comportement, qui en avait sidéré plus d'un et plus d'une, m'est revenu en mémoire lorsque j'ai découvert le dernier livre de Georges Vigarello, grand historien du corps et des sentiments, un livre intitulé « La robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, magnifiquement illustrée et rigoureusement pensée ». Rien de moins futile, je vous l'assure, que cette thématique que nous allons aborder ce matin. Philippe Soupeau s'écriait un jour « À qui fera-t-on croire que l'esthétique féminine n'est pas un des symptômes les plus marquants de l'évolution de la civilisation ?» La représentation de la femme, son rôle, son statut sont directement présents dans ses allures et dans son maintien au cœur des sensibilités collectives. L'histoire de la robe informe donc bien au-delà d'elle-même. Entre artifice et spontanéité, entre pudeur et érotisme, entre fluidité et géométrie, entre contrainte et liberté, se dessine un long chemin que j'ai le goût de parcourir avec Georges Vigarello ce matin et avec vous tous, qui voulez bien nous être fidèles.
Dans le clair petit bois d'un village, un lutin s'ennuyait ce jour-là, mais le vent écarta les feuillages. Et le lutin regarda. Une robe valsait dans un coin de printemps. Ses rubans voltigeaient et tous les volants volaient dans le vent. Comme un forêt tourbillon, cette robe entraînait du soleil en rayon et des papillons et le mois de mai. En passant auprès d'elle, un jeune homme au grand cœur vit qu'une demoiselle était à l'intérieur. En voyant tout cela, il offrit galamment à la robe son bras, à la demoiselle un doux compliment. Le soleil se mit à sa fenêtre, mais tous deux préféraient les coins noirs. Dans le bois, on les vit disparaître, et voilà qu'un peu plus tard, une robe valsait dans un coin de printemps. Ses rubans sont défaits, le reste est fripé, on ne sait comment. Les les moineaux se disaient, c'est vraiment très curieux, car la robe dansait sans la demoiselle et sans le monsieur. Quel était ce mystère? Demoiselle, que fais-tu? Mais ce qu'elle a pu faire, les moineaux l'ont bien vu. Une robe valsée, chiffonnée par l'amour. Et l'amour se disait, les robes sont faites pour valser un jour.
Georges Hugarello, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, pour ouvrir notre conversation, une chanson d'Henri Contet et Virgilio Panzuti, interprétée ici par Yvette Giraud et qui s'appelait, 1953, qui s'appelait Une robe valsée. Je l'ai choisie parce qu'il me paraît que nous abordons déjà au rêve, à la liberté, à la séduction, et puis aux relations avec la valse.
Exactement. Et au désir, au mouvement. C'est une robe quasi contemporaine.
La valse, cela date de quand?
Alors, la valse date de la fin du 18e. Mais elle est très intéressante parce que c'est un moment où la pudeur est quand même en recul. Et où les deux danseurs se rapprochent, ce qui était interdit jusque-là, se rapprochent jusqu'à se toucher. Et alors, ce qui est curieux également concernant la valse, c'est que les membres eux-mêmes peuvent se croiser. La jambe du valseur peut, au fond, rentrer dans l'entrejambe de la femme et vice-versa, vous voyez. Et ça, ça entraîne indiscutablement des modes de mouvement et en même temps des modes de relation qui jusque-là, effectivement, n'existaient pas. Et sont rendus possibles, c'est absolument fondamental. Sans rendu possible parce que la robe a changé. Alors, la robe a changé à la fin du 18e siècle et c'est ce qui permet précisément ce nouveau type de mouvement et ce nouveau type de proximité. Parce qu'auparavant, la robe du 18e siècle, c'est encore une robe qui s'évase considérablement vers le bas et qui est tenue de façon rigide. Or, fin 18e, cette rigidité tombe et s'efface. Et on a cette double valence, à la fois une érotisation et en même temps une dynamisation.
Eh bien, c'est tout ce que nous allons considérer sur la longue durée. Nous remonterons peut-être tout à l'heure à propos de la Révolution jusqu'à l'Antiquité. Mais pour l'instant, débutons avec le Moyen-Âge, Georges Hugarello. Comment définiriez-vous la robe du 12e, du 13e siècle?
Il y a deux moments. Il y a un premier moment où la robe enveloppe totalement l'anatomie féminine jusqu'à la dissimuler totalement. C'est la robe du 11e, 12e siècle.
Une sorte de sac?
C'est une sorte de sac. C'est aussi une robe qui concerne l'homme, ne l'oublions jamais. Donc les corps sont totalement effacés, si on peut dire. Et puis, vous avez, fin 13e siècle, un moment extrêmement important, à mon avis, où la poitrine de la femme commence à apparaître avec ses propres formes et un lassage s'installe dans le haut de la robe, alors que le bas reste confondu dans un ensemble de plis.
Mais le lassage est mal accepté au début.
Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est important? Parce que ce lassage est quand même l'objet d'une affirmation. Au fond, une affirmation de relative libération et de travail sur l'esthétisation de ce corps qui n'est plus totalement enfoui sous l'étoffe. Cela entraîne inévitablement de la résistance. C'est-à-dire que ça paraît comme quelque chose qui transgresse les pudeurs habituelles. Et je crois que c'est très important, ce moment, parce que il renvoie, alors Le Goff l'explique très bien dans ses textes sur la civilisation médiévale, il renvoie à une relative montée de la laïcisation, vous voyez, une forme d'autonomie, une forme d'affirmation. Alors certes, cette affirmation se limite exclusivement à l'esthétique. C'est pas une affirmation pour la dynamique, le mouvement, etc., la turbulence. Mais le simple fait qu'elle soit centrée sur l'esthétique me paraît personnellement très important.
Avec distinction, du coup, entre l'homme et la femme.
Alors, du coup, avec distinction de l'homme et de la femme, ce qui est effectivement tout à fait marquant également, l'homme commençant à abandonner cette robe qui dissimule son anatomie et commençant à porter ce qu'on appellerait aujourd'hui des pantalons, le tout, vous voyez, renvoyant à plusieurs choses. D'une part, l'homme versant activité. Il bouge, les pantalons le permettent, il n'est plus totalement enfoui sous quelque chose qui dissimule sa dynamique. Et la femme affirme quelque chose qui est d'ordre de l'esthétique. Donc on voit déjà, à la fin du Moyen-Âge, un partage central, que l'on retrouvera évidemment très longtemps dans les siècles qui suivent. Quel est ce partage central? La femme, esthétisation, et l'homme, dynamisation. Ça, c'est fondamental.
Avec aussi érotisme et chasteté, je le vois dans ce parement et triomphe des femmes d'honneur d'Olivier de la Marche à la fin du XVe siècle. Un couturier nous convient de préparer pour un long corset donné à ma princesse et son beau corps revêtir et parer de nobles habits pour le bien décorer. Nous lui donnerons le nom de chasteté, c'est un beau nom par vertu achetée.
Ah oui, non, c'est un texte très important, parce que le mot chasteté doit être retenu. Il n'en reste pas moins que cette chasteté doit croiser quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'esthétique. Et il y a un mot très important dans ce texte, c'est décoration. Vous voyez, la femme renvoyée a, au fond, quelque chose qui est de l'ordre d'une apparence décorative. Et par là même, quelque chose qui est de l'ordre de la passivité, par rapport à l'homme qui est de l'ordre de l'activité.
C'est le temps où la taille est marquée par la sorquanie. C'est un mot qu'il faut expliquer.
Alors c'est l'ancêtre de la ceinture. La sorquanie, c'est ce qui serre en quelque sorte le centre du corps et qui commence à dessiner. Il y a un travail, je dirais, de préparation vers des formes qui vont s'affirmer de façon beaucoup plus nette au moment de la Renaissance et au moment du XVIIe siècle. Alors ce travail, c'est le suivant. La ceinture serrée, le haut du corps également relativement serré par le lassage et le bas du corps totalement dissimulé dans une nuée de plis. Donc, c'est ça qui commence à, je dirais, à dessiner des formes qui vont s'affirmer de façon beaucoup plus forte dans les périodes qui vont suivre.
Cela suppose évidemment que surgisse très tôt le corset.
Alors, c'est pas, je comprends très bien que vous utilisiez ce mot. Ce n'est pas encore vraiment le corset. C'est un lassage qui effectivement rend rigide le haut du corps, avec dans certains cas, on le voit bien, surtout au XVe siècle, avec dans certains cas le recours à des étoffes qui sont des étoffes rigides. Ce qui est important, vous voyez, c'est effectivement le fait que le haut va dans le sens d'une rigidité du buste.
En contraste avec le bas.
Contraste avec le bas, et un haut qui s'affirme, et qui va s'affirmer toujours davantage, parce que c'est le lieu de l'expression, c'est le lieu de la, je dirais, de l'esthétisation de la physionomie, de l'esthétisation du geste, le geste des bras, vous voyez, par exemple, alors que le geste des jambes est totalement dissimulé et quasiment interdit.
Mais quand apparaît le mot corset ?
Le mot corset apparaît au XVe siècle. Il a plusieurs types qui peuvent être très différents. Ça peut être ce qu'on appelle une cotte, c'est-à-dire un habit qui serre simplement. Et en revanche, ça peut être au contraire un instrument parfaitement spécifique qui, lui, vient s'imposer en dehors même de l'habit et sous l'habit.
Vous montrez ça très bien dans oui, une illustration impressionnante de votre livre.
Oui, bien sûr. Et ça apparaît vraiment au XVIe siècle seulement. Vous voyez, ce dispositif spécifique qui, au XVIe siècle, on le voit, et par rapport à nos repères, est absolument intolérable. C'est un système de fer, avec des ouvertures pour que le fer soit plus léger, mais c'est quand même du fer. Et ces deux plaques métalliques, par exemple, que porte la reine Margot à la fin du XVIe siècle, autour de ses hanches, pour, au fond, jouer vers une perspective d'amaigrissement.
Le corset aura une longue vie devant soi. Certes, Poiret, nous le verrons, le couturier le supprimera juste avant la guerre de 14, mais il durera néanmoins. Et écoutez donc cette chanson, cette brève chanson, qui est une sorte d'hommage au corset. Elle est interprétée par Denise Benoît en 1957. Les auteurs sont Claude Arieux et Louise de Villemorin, la muse d'André Malraux.
Les médecins critiquent le corset, ce charmant écrin qui consiste à soutenir certains attraits, charmes auxquels nul ne résiste. Voyons au fond, ce n'est pas juste. Qu'y a-t-il de plus séduisant qu'un mignon corset qui s'ajuste sur des contours aussi charmants? Le corset, c'est gentil, c'est coquet. Ce qu'il trouve d'admirateur, ce coquin de séducteur, ce nid d'amour aux hommes plaira toujours. Voilà pourquoi jamais la femme n'ôtera le corset.
Oui, ce corset qui s'agite, on est encore, il est encore présent, 1957, Georges Garrido.
C'est vraiment très étonnant, parce qu'on voit à ce moment-là que le corset traverse l'ensemble des siècles de la société occidentale jusqu'à nous, à partir du Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui, vous voyez. Mais je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a évidemment plusieurs types de corsets. Il y a le corset qui s'invente vraiment au XVIe siècle et qui est d'une rigidité considérable. Le corset du XVIIe l'est toujours en utilisant des fanons de baleine qui viennent s'inscrire à l'intérieur de l'étoffe, qui viennent suppléer en quelque sorte les os eux-mêmes du corps.
Un instrument de torture.
Instrument qui est aujourd'hui considéré comme un instrument de torture, qui était tolérée et supportée malgré les critiques. La chanson le dit très bien. Les médecins, dès le 16e, s'opposent à ce type de dispositif, et même des hommes de lettres. Il y a un passage magnifique de Montaigne qui regrette le fait que les femmes portent des sortes de croches pour tenir ce corset qui parfois font jaillir le sang, vous voyez. Donc il y a quand même incontestablement une contrainte considérable, mais cette contrainte, elle n'est pas perçue comme telle, je pense.
Quand même, comme je vois qu'Ambroise Paré, le chirurgien de Charles IX, c'est pareil d'Henri III, évoque avec amertume ses constats de chirurgien. Il dit « J'ai souvenance d'avoir ouvert le corps mort d'une dame de notre cour qui, pour vouloir montrer avoir le corps beau et grêle, se faisait serrer de sorte que je trouvais les fausses côtes chevauchant les unes par-dessus les autres qui faisaient que son estomac étant pressé, ne pouvait s'étendre pour contenir la viande, et après avoir mangé et bu, était contrainte de le rejeter, et le corps n'étant nourri devient maigre, n'ayant presque que le cuir sur les os qui fut cause de sa mort. Voilà. Corset mortel.
Bien sûr, le texte est imparable, et d'autant que le corset est parfois porté lorsque la femme elle-même est enceinte. Mais ce que je veux simplement souligner, c'est que ce qui nous apparaît, nous, comme absolument insupportable, était quand même supporté. C'est ça que je veux souligner, vous voyez. Il y a à la fois une tension, et en même temps, il y a, au fond, le fait d'accepter et de vivre avec ce type de contraintes.
Il faut dire que se mêle à ce type de contraintes, qui sont des contraintes qui naissent d'une préoccupation esthétique.
Oui.
Il y a aussi du moralisme, en particulier lorsque surgissent la réforme, puis la contre-réforme et le jansénisme.
Oui, alors c'est une période très importante parce que le jansénisme, la contre-réforme, finalement remettent en cause, non pas forcément le corset, mais remettent en cause la couleur, remettent en cause l'excès d'insistance sur des formes trop marquées, vous voyez. Et du coup, on voit bien, à travers les gravures d'Abraham Bosse en particulier, qui sont des gravures des années 1630, on voit bien que la robe est un peu plus terne, elle est un peu plus homogène, alors que la robe précédente accentue indiscutablement le bas. Mais lorsqu'on regarde avec attention les images, ce que j'ai essayé de faire, on se rend compte quand même que la forme qui est celle que je considère comme dominante et celle qui aura le plus d'existence dans le temps. Cette forme, c'est quoi? C'est un bas qui s'évase, un haut qui devient une sorte de jonc et un visage qui sort de cela. Et donc, on voit à partir de la fin du XVIe et au XVIIe siècle, cette image que je considère comme centrale, vers laquelle tendent en quelque sorte les essais, les effets, les efforts du Moyen-Âge et de la Renaissance. Cette image, c'est la suivante, c'est un piédestal. La femme s'installe sur quelque chose qui la fige. Et c'est là que l'on voit véritablement le sens du mot décor, et c'est là que l'on voit véritablement le sens d'une esthétique qui est une esthétique passive.
Et binaire, puisqu'on s'oppose toujours le haut du corps.
Bien sûr.
Et le bas, d'ailleurs, je vois que dans ses discours de la beauté des dames, Agnolo Firenzuola, un personnage que vous avez fait émerger, Georges Bigarello, en 1578, souligne l'inutilité des zones inférieures pour désigner la beauté. Il écrit « La nature induit les femmes et les hommes à découvrir les parties hautes et à cacher les parties basses, parce que les premières, comme propre siège de la beauté, doivent se voir, et il n'est pas ainsi des autres, étant seulement le fondement et la base et le soutien des supérieurs. » Et Marie de Romieux, dans ses instructions pour les jeunes filles en 1552, instructions pour les jeunes filles par la mère et fille d'alliance, s'écrit qu'elle besoin de se soucier des jambes, puisque ce n'est pas chose qu'il faille montrer.
Absolument. Non, mais on voit bien là le jeu de la pudeur, vous voyez, on le voit bien. Le jeu de la pudeur consiste à masquer un certain nombre de parties du corps. Mais ce que l'on voit aussi, et le texte de Firenzuola le dit très bien, et c'est assez remarquable ce texte de la deuxième moitié du XVIe siècle, ce que l'on voit aussi, c'est cette sorte d'insistance sur l'idée, d'une part, que c'est dans le haut que émerge l'expression et donc la physionomie et donc la beauté, mais en même temps, ce que Firenzuola le dit très bien, c'est un des premiers à le dire de façon absolument magistrale, mais en même temps, le haut, c'est comme un vase. C'est-à-dire que le bas, c'est ce qui soutient, le haut, c'est un vase dont le tronc consiste en quelque sorte, dont le tronc est je dirais, le galbe, les bras sont les poignets, et le visage sont les fleurs. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que sinon, on ne comprend pas quel est le type d'esthétique féminin. Vous voyez, on ne comprend pas. Le type d'esthétique féminin traditionnel, c'est à la fois cette expression du haut, je n'y reviens pas, mais c'est en même temps cette idée que cette beauté, elle est figée, elle est hiératique, elle est faite uniquement pour le décor, elle n'est pas du tout faite pour l'action. Alors que ce que nous avons entendu dans la chanson des années 57, c'est au contraire une robe qui virevolte, c'est tout à fait autre chose.
Oui, il s'agit de figer la femme dans une situation évidemment dominée.
Bien sûr.
Qui sert
c'est une
décor.
Femme qui accueille, vous voyez, qui accueille, qui est là uniquement pour montrer quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence figée et d'une esthétique faite pour le regard et pas du tout faite pour que elle-même soit un objet d'action.
Il y a une évolution de la pudeur suivant les parties du corps aussi ?
Indiscutablement. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, lorsque vous opposiez le haut et le bas, me paraît effectivement un problème assez central. Qu'est-ce qui se passe dans l'évolution de notre propre société ? Insensiblement, c'est quand même le bas qui va prendre une place, vous voyez ? On le voit même déjà aux Lumières, au moment des Lumières, lorsqu'il y a une critique des rigidités, lorsqu'il y a une critique des tenues qui sont trop fermes, un élan vers l'assouplissement. Qu'est-ce que c'est qu'un élan vers l'assouplissement ? C'est insensiblement l'émergence des hanches, insensiblement. Ce qui ne veut pas dire que le dispositif dont je viens de parler disparaisse, mais insensiblement, il est bousculé. Il est bousculé. Et on le voit bien dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la fois avec des robes qui sont plus souples, même si elles maintiennent le type de forme, et quand même le fait que dans leur souplesse, elles acceptent la présence des hanches et le fait que ces hanches se manifestent.
Donc, il y a une remise en cause, à ce moment-là, de l'héritage du XVIe siècle, où on
Bien
voit
sûr.
Les lignes se géométriser avec ces deux entonnoirs, en fait, dire ça sans être excessif, posés l'un sur l'autre.
Ce qui est vraiment très intéressant au XVIe siècle, c'est que la robe... Alors justement, je reviens à une idée à laquelle je tiens beaucoup, c'est que la robe obéit à un contexte. Et quel est ce contexte ? Ce contexte, c'est que la beauté, c'est de l'ordre de la géométrie. Vous voyez, le XVIe siècle invente un univers qui est complètement géométrique. Et cette géométrie, elle va se retrouver dans le dispositif de la robe, dans la façon dont les cônes s'installent les uns par rapport aux autres. Un cône qui va en s'évasant vers le bas et un cône qui va en s'évasant vers le haut lorsque l'on parle du buste. Vous voyez, ça c'est vraiment très important parce que vous avez ce contexte global qui est le statut de la femme, et vous avez un contexte qui répond à certaines époques et qui privilégie dans certains cas strictement la géométrie et qui va privilégier dans d'autres cas un petit peu plus de mouvement et un petit peu plus de dynamique.
Avec toujours ces sacrifices faits à la séduction, on trouve des textes qui évoquent irrésistiblement les critiques faites aujourd'hui contre l'obligatoire minceur des mannequins, des modèles contemporains. Je vois que Jean Liébeau, on est à peu près à la deuxième moitié du XVIe, évoque le cas de plusieurs dames bien nées qui multiplient les procédés abrupts pour avoir le corps mince. Citation. S'abstenir de manger, absorber de la craie et du jet pulvérisé, je ne sais pas ce que c'est que le jet pulvérisé, consommer acide, vinaigres et citrons.
C'est un matériau qui est proche de la pierre, vous voyez le jet. Mais c'est un exemple tout à fait fondamental. Et ça nous permet justement d'aborder un sujet que nous avons effleuré et dont nous n'avons pas parlé, c'est la minceur. En fait, il y a vraiment deux grandes données dans cette esthétique féminine traditionnelle. La première donnée, n'y revenons pas, c'est quelque chose qui est figé et qui répond à des données de type plus ou moins géométrique, piédestal, fleur, etc. Et la seconde, c'est quand même la minceur. Et pourquoi la minceur ? C'est pas du tout la minceur d'aujourd'hui. C'est une minceur qui est faite pour manifester de la vulnérabilité, pour manifester de la délicatesse, pour manifester de la fragilité. Donc vous voyez, la robe, elle dit bien deux choses. Dans son immobilité, elle dit la femme est décor, et dans sa minceur, elle dit la femme est fragile.
Ce n'est pas ce qu'on veut démontrer dans le cadre de nos mannequins d'aujourd'hui.
Ah, c'est radicalement différent. La minceur d'aujourd'hui, c'est une minceur tonique. C'est fondamentalement différent. C'est une minceur active. Et ça renvoie précisément aussi à un changement de la robe.
Voilà pourquoi critique-t-on autant la minceur aujourd'hui, et même la maigreur de nos modèles, comme faisait Liébeau au XVIe siècle.
On critique la minceur d'aujourd'hui à juste titre, parce que dans certains cas, elle est indiscutablement inquiétante quant à la santé de ceux qui la manifestent. Mais on ne peut pas dire non plus que cette minceur soit systématiquement diffusée dans l'ensemble de la population. Je pense que ce qui est beaucoup plus important de relever, c'est l'exigence d'une minceur active et tonique qui renvoie, par exemple, au fait de pouvoir travailler, au fait de rentrer dans le loisir, au fait de faire du sport. C'est ça le type de tenue féminine contemporaine.
Cela dit, pour le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle, nous parlions des classes supérieures. Est-ce que les classes populaires, telles qu'on peut les apercevoir dans l'ensemble des tableaux, des gravures du temps, le nain et d'autres, est-ce que cette mode descend dans ces...
Alors évidemment, c'est une grande question. Et pour tout vous dire, quand j'ai commencé ce travail, personnellement, j'étais assez persuadé que les formes dont nous venons de parler concernaient l'élite. J'étais assez persuadé. Et quand on entre vraiment dans la documentation la plus diffuse qui puisse exister, quand on lit l'ensemble des textes, les historiens du temps, les historiens de l'époque, vous voyez, les documents d'époque et pas les documents d'aujourd'hui, on se rend compte que ces formes, elles ont quand même diffusé dans les espaces sociaux qui ne sont plus les espaces de l'élite. Pourquoi ? Parce que je crois que l'image de la femme est bien celle-là. C'est-à-dire que même dans le milieu, appelons-le populaire, l'image de la femme est bien celle-là. C'est-à-dire celle qui est là uniquement pour de l'esthétique, même si par ailleurs, elle peut travailler. Mais elle est quand même, vous voyez, dans l'ordre de cette esthétique dont nous parlons, qui est différemment exprimée dans le populaire. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas forcément des robes qui ont des structures rigides à l'intérieur, mais on fait cascader des tabliers, on fait cascader des épaisseurs. Et si bien ce que l'on voit dans des gravures absolument magnifiques comme celle de Leclerc, Sébastien Leclerc au XVIIe siècle, ce que l'on voit, c'est bien cela. C'est-à-dire, la laitière a une robe qui s'évase vers le bas, elle a un tronc serré, on voit le lacet, et puis à nouveau ce fameux visage qui sort comme une expression florale.
L'apparition des paniers.
Alors, l'apparition des paniers, c'est un dispositif qui émerge au XVIIIe siècle et qui est très intéressant parce que on voit bien que le panier, c'est quoi ? C'est un système de bois, parfois même de fer, qui se trouve à l'intérieur de la robe et qui est fait pour maintenir un évasement qui va de plus en plus large lorsqu'on part de la taille et que l'on descend vers le sol. Et ce panier s'impose véritablement, y compris d'ailleurs, ne le cachons pas, hein. Il y a quand même du bois aussi parfois dans des tenues populaires, vous voyez. Il y a bien du bois que l'on met dessous, hein. Donc c'est au fond le symbole maximal de ce dispositif en piédestal dont je parlais tout à l'heure.
Alors nous arrivons, Georges Hugarello, nous arrivons à la Révolution. Et comme toujours, un très bon guide, c'est Louis-Sébastien Mercier. Nous lui avons consacré une émission récemment dans le Tableau de Paris. Évoque les robes de son temps. C'est une lecture de Bernard-Pierre Donadieu, le 15 novembre 1994, dans les chemins de la connaissance de Lise Andriès, sur France Culture, naturellement.
Robe, ajustement. Les jolies femmes et les déesses du jour continuent à balayer les rues boueuses de la capitale avec leurs robes traînantes et transparentes. Le ciel serein de la Grèce, l'égale et douce température de son climat, la netteté des rues de ces villes opulentes justifiaient la forme et le port des robes athéniennes. Mais à Paris, ville de boue et de fumée, l'hiver surtout, de pareilles robes ne peuvent paraître que ridicules aux esprits sensés. Pas une petite maîtresse, pas une grisette qui ne se décore le dimanche d'une robe athénienne de linon et qui n'en ramène sur le bras droit les plis pendants pour se dessiner à l'antique ou du moins égaler Vénus aux belles fesses.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Nous sommes dans ce domaine, la question de la robe que nous évoquons ce matin avec vous, Georges Hugarello. Comme dans d'autres aspects de la Révolution française, l'influence de l'Antiquité est très grande, une Antiquité parfois imaginaire, au point que on se rappelle ce député qui s'adressant à un autre, on est à l'époque de la législative, s'écrit « Mais enfin, monsieur, l'histoire n'est pas notre code ». Oui. Il n'empêche que là, on a l'impression que le code des vêtements de la Rome antique et de la Grèce... Oui. Plus ou moins imaginaire d'ailleurs, mais s'impose et du coup change très fortement.
Le dispositif, alors c'est le mot que l'on peut utiliser, le dispositif est révolutionné. Et je pense qu'il y a une double raison effectivement. La première, c'est le renvoi à l'idéal d'une antiquité qui serait le lieu de la démocratie et qui deviendrait l'exemple de la tenue que l'on peut porter. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est le statut de la femme. Ça, c'est fondamental. Quand on lit des auteurs comme Olympe de Gouges, on voit bien que ce qui est attendu, c'est le fait que la femme puisse disposer de métiers les plus différents possibles et que par là même, les tenues qui auparavant la contraignaient disparaissent.
Olympe de Gouges, c'est la grande féministe
c'est
de l'époque
la grande féministe de l'époque, révolutionnaire, absolument, et qui s'intéresse, et ça c'est très important, qui s'intéresse à l'habit, en proposant que la femme entre véritablement dans l'espace public et puisse effectuer les métiers les plus divers qui soient, ce qui entraîne effectivement le fait que la robe doit changer. Et ça se passe. Ça, ce qui est vraiment très frappant, quand vous lisez avec attention les revues, les périodiques de mode des années 90, quand vous les lisez avec attention, vous êtes frappé par le fait que brusquement, ce qui était auparavant cerceau, ce qui était auparavant tenue bouffante, etc., tombe, et que l'anatomie vient parler à la lisière de la robe. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que c'est vraiment une manière qui montre, on ne peut mieux, la place que le contexte peut avoir sur la façon dont les tenues peuvent être portées.
Et sur ce fond de paysage, on peut avoir plaisir à lire un extrait du Paysan parvenu de Marivaux, qui montre qu'il y a au moins pour un temps la fin de cette opposition très rigide entre le haut et le bas du corps de la femme imposée par les robes. C'est le personnage, avoue sa surprise en voyant Madame de Ferval qui lisait couchée sur un sofa dans un déshabillé très propre mais assez négligemment arrangé. « Figurez-vous, dit-il, une jupe qui n'est pas tout à fait rabattue jusqu'aux pieds, qui même laisse voir un peu de la plus belle jambe du monde, et c'est une grande beauté qu'une belle jambe dans une femme. » Il ajoute ceci, qui me paraît topique, « Je sentis bien ce que valait le pied et la jambe d'une femme. Jusque-là, je les avais comptés pour rien. Je n'avais vu les femmes qu'au visage et à la taille. J'appris alors qu'elles étaient femmes partout. »
Mais oui, tout est dit dans cette phrase. Et en fait, on voit bien dans le texte de Marivaux qu'il y a révolution et pré-révolution. C'est-à-dire que la pré-révolution est tout aussi importante. Avec de nouveaux types de tissus, avec de nouveaux types de dispositifs formels, avec le reproche très fort effectué aux contraintes. Mais vous savez, quand je parle de contexte, ça concerne bien sûr la tenue féminine, mais ça concerne aussi les tenues masculines. Vous avez une critique très forte qui porte sur la façon, dans les années 80 du XVIIIe siècle, sur la façon dont les militaires sont trop serrés, par exemple, ou la façon dont les hommes ont des gilets qui sont beaucoup trop étroits. Et donc là, on voit bien que le contexte joue aussi bien sur la tenue féminine que sur la tenue masculine.
Comment sont les robes de Marie-Antoinette que, évidemment, non seulement la cour, mais le pays tout entier considère?
Alors, on dit que Marie-Antoinette porte des chemises. Et en fait, quand on regarde les images, on voit qu'effectivement, les tissages ne sont plus du tout ceux que la tradition imposait. Ils sont beaucoup plus souples. Et le mot linon, d'ailleurs, est intéressant, parce que ce sont des gaz, vous voyez, ce sont des tissages beaucoup plus souples, beaucoup plus aussi transparents, ne l'oublions pas. Reste que Marie-Antoinette conserve quand même un bas qui est très évasé. On a tendance à l'oublier. C'est important, Marie-Antoinette, parce qu'à la fois, elle est dans la cour et elle n'y est pas. À la fois, elle obéit aux normes curiales et en même temps, elle tente de s'en échapper. Mais elle ne s'en échappe pas complètement, vous voyez. Et donc, la tenue reste quand même assez ouverte, assez évasée vers le bas. Reste que, oui, la fin du 18e et surtout le moment de la Révolution transforme, métamorphose la robe.
Au moment où on se défoule, au moment du directoire, au moment des incroyables et des merveilleuses, c'est un retour en arrière ou on affirme de façon plus structurelle une
évolution? Je pense que le mot de merveilleuse est en fait ambigu. Et ce que nous retenons, nous, dans une sorte de vulgate un peu superficielle, c'est l'idée selon laquelle la tenue est de plus en plus froufroutante, de plus en plus dispersée, de plus en plus étonnante.
La robe.
La robe. Alors qu'en fait, non. La fin du XVIIIe siècle, c'est au contraire ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire une robe qui tombe, une robe qui flotte en quelque sorte, et qui permet le mouvement. Et lorsque vous lisez les textes des périodiques, vous voyez que ces textes disent « il faut que l'anatomie elle-même vienne se marquer au niveau de la frontière de la robe ». Donc ça, c'est une transformation radicale. Et les merveilleuses en sont aussi un exemple. Voyez, on a tendance à l'oublier. Ce qu'il faut ajouter, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette transformation que je qualifierais de dynamique, mais en même temps, il y a une attention nouvelle à l'érotique. Le fait que les robes sont plus transparentes. Ça permet la valse dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire les rencontres des corps, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui s'est défait, qui s'est dénoué, et qui me paraît très très important dans notre propre histoire.
Et qui nous dit quoi sur l'évolution de la société et de la situation de la femme avant qu'on entre dans cette période de glaciation de la bourgeoisie au pouvoir pour la femme.
Qui nous dit que concernant la libération, il y avait une avancée, une indiscutable avancée, que l'on retrouve d'ailleurs sur autre chose, le divorce, la situation dans la famille, le fait que le métier est discuté, et puis ce sont même les révolutionnaires qui vont fermer les métiers, vous voyez, dans les années 94. Donc on voit déjà à la fois cette sorte d'ouverture qui à nos yeux demeure fascinante, et en même temps, insensiblement, quelque chose qui sera quoi? Une fermeture.
La période du romantisme est également intéressante. Je vais vous faire entendre un poème peu connu de Théophile Gautier, 1838, qui s'appelle « À une robe rose ». C'est René Clermont qui le lisait sur France Culture le 30 novembre 1972 dans la littérature, l'émission de Roger Vrigny.
Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien, faisant jaillir ta gorge en globe, montrant tout nu ton bras païen. Frêle comme une aile d'abeille, frais comme un cœur de rose thé, son tissu caresse vermeille, voltige autour de ta beauté. De l'épiderme sur la soie glissent des frissons argentés, et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés. D'où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair, trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair? Est-ce à la rougeur de l'aurore, à la coquille de Vénus, au bouton de saint près d'éclore, que sont pris ces tons inconnus? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur? Non, vingt fois modelée et peinte, ta forme connaît sa splendeur. Jetant le voile qui te pèse, réalité que l'art rêva, comme la princesse Borghèse, tu poserais pour Canova. Et ces plis roses sont les lèvres de mes désirs inapaisés, mettant au corps dont tu les sèvres une tunique de baisers.
Je rappelle que la Vénus Victrix de Canova, qu'évoque le poème de Théophile Gautier, concernait la princesse Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon, Bonaparte Borghèse, qui avait servi, cela avait causé quelques scandales, de modèle pour la statue, puisqu'elle est à peine couverte sur le bas du corps. C'est une magnifique statue qui est exposée actuellement à la Galerie Borghèse à Rome.
Oui, mais alors, en 1838, à l'époque de ce poème, la robe a commencé à reprendre les formes antérieures. Et le bas s'évase de plus en plus. Quand vous suivez les périodiques, vous êtes frappé par ce type d'image. Et en même temps, lorsque vous lisez les textes, et je trouve que ce poème de Gautier le montre, quand vous lisez les textes, vous voyez que les poètes, dont Baudelaire d'ailleurs, considèrent que cette forme qui s'évase, c'est dans une certaine mesure une forme naturelle. La beauté s'exprime comme ça, vous voyez. Et finalement, je trouve que la façon dont il parle de manière magistrale de son propre désir, lorsqu'il évoque comme ça les frissons, les éclairs de la robe, ça c'est très romantique et c'est magnifique parce que on commence à prendre en compte ce qui est vécu par celui qui regarde, si vous voulez, avec des métaphores sur l'électricité, etc. Bon, quand il dit tout cela, il regarde une robe qui est quand même celle de l'artificialisation d'anatomie. C'est-à-dire qu'il retrouve les formes antérieures. Les années 30-40, elles manifestent bien le retour de ces formes anciennes, avec une taille très serrée, un haut qui s'évase légèrement avec des épaules relativement élargies, et puis un bas qui, lui, s'évase de plus en plus vers le bas, avec précisément des festons, des volants, des coquilles, vous voyez, et des couleurs, bien sûr, que Gautier marche très bien. Alors, ce qui me frappe aussi, lorsqu'on lit Baudelaire, c'est la manière dont Baudelaire est fasciné par les peintures de Constantin Guise. Or, Constantin Guise, ce grand peintre des années 1850, c'est bien celui qui montre un évasement considérable du bas. Ce retour, au fond, des formes anciennes. Et ce retour des formes anciennes est lié, à mes yeux, au fait que l'on retrouve un statut traditionnel de la femme.
C'est là qu'apparaît en majesté la crinoline.
Exactement.
Dont nous devons parler d'abord en expliquant d'où vient le mot.
Ça alors le mot vient tout simplement de crin.
De crin, c'est bizarre.
C'est-à-dire c'est un tissage qui utilise tout simplement le crin de cheval, ne l'oublions pas, et qui entraîne la rigidité. Mais le mot crinoline est intéressant parce que il va aussi signifier le dispositif interne, c'est-à-dire les cerceaux de fer, cette fois, avec un acier léger, grâce à des industrialisations que les périodes précédentes ne connaissaient pas, un acier léger qui va jouer précisément sur l'évasement, dont les tenues de l'impératrice sont les plus parlantes, l'impératrice Eugénie.
Avec un empilement de jupons,
voilà,
absolument fascinant pour les contemporains.
Bien sûr, pour eux c'est un symbole de beauté. Alors que pour nous, c'est une artificialisation complète.
Alors écoutez ça. Pantalon de dentelle, en premier dessous, voilà, totalement dissimulé, recouvert par un jupon très raide, tissé de fil ou de laine, et un crin de 3 ou 4 mètres de tour, recouvert lui-même par un second, je cite, ouatiné au genou et raidi par des baleines, je cite un auteur du temps, recouvert encore par un troisième à volant, blanc et empesé, recouvert enfin par un quatrième en mousseline, sur lequel la robe enfin vient se placer.
Ben oui, c'est là qu'on retrouve vraiment, le dispositif traditionnel. Et historiquement, c'est intéressant parce qu'on voit bien que la tentative d'affirmation qui a lieu au moment de la Révolution n'aboutit pas, ne réussit pas. C'est très bien montré par les historiens. Et en ne réussissant pas, eh bien, ben, c'est au fond la beauté des corps qui va à nouveau l'emporter pendant un certain temps. Elle ne triomphera évidemment pas jusqu'au bout, mais elle va l'emporter pendant un certain temps au point que, je parlais de l'impératrice Eugénie. Il y a une image magnifique de cette impératrice lorsqu'elle se promène dans ce qu'on appelle les glacières des Alpes, c'est-à-dire les glaciers. Et elle se promène avec cette tenue, c'est-à-dire, c'est pas du tout la tenue de l'alpiniste telle que nous pourrions la penser, c'est au contraire une tenue qui s'évase infiniment vers le bas, avec plusieurs surfaces que l'on devine, bien sûr, des tabliers, etc., et puis une ceinture très serrée, un haut extrêmement serré également, et une petite toque sur la tête qui vient comme une fleur, vous voyez, on retrouve effectivement.
Pour la montagne, ça n'est pas très commode, pour Venise non
c'est
plus.
C'est évident.
Venise non plus, que Mérimée dit à l'époque, rien de plus drôle qu'une crinoline entrant dans une gondole.
Ben oui, voilà. Et mais alors, ce qui est important dans ces remarques, c'est que les critiques ont toujours existé. On a vu Ambroise Paré, Montaigne, etc. Les critiques continuent de se manifester au XIXe siècle, mais insensiblement, elles vont quand même l'emporter. Parce qu'elles sont doubles, les critiques. Elles sont d'une part la critique des spectateurs, des hommes, etc. Je pense à Daumier qui se moque des jeunes femmes qui ne peuvent pas passer les portières de l'exposition parce que leurs robes sont trop larges, donc elles viennent effectivement des spectateurs, mais elles viennent aussi des femmes qui commencent à sentir que ce dispositif ne peut pas convenir à une vie qui rentre dans l'espace public. Et George Sand en est le premier exemple, un exemple absolument magnifique.
En quoi ?
Ben, au sens où elle critique la tenue traditionnelle comme étant une tenue de la contrainte et de l'impuissance, au bénéfice d'une tenue nouvelle qui, au contraire, celle, je dirais, de la puissance, en tout cas, du mouvement et de la présence dans l'espace public. C'est très intéressant, George Sand, parce que c'est quelqu'un qui commence à dire, au fond, le féminin est renvoyé à un état de passivité, je reviens à mes termes, un état de décor, etc. Ou un état de séduction. C'est uniquement l'objet qui est celui qui doit fasciner la séduction. Or, personnellement, dit-elle, je veux sortir de ces dispositifs. Moi, je veux entrer dans l'espace public et je veux pas être l'objet d'un regard qui doit m'imposer quelque chose qui est dans la séduction. Je voudrais presque, dans un certain sens, disparaître, me trouver égal aux autres, vous voyez.
Donc, fumer le cigare et porter des pantalons.
Je trouve que c'est très important.
Le pantalon. Nous avions fait il y a 5 ans une émission avec Christine Barr sur le pantalon, qui est encore
un très beau livre.
Qui est encore, mais l'émission est encore en ligne, je permets d'y renvoyer nos auditrices et nos auditeurs. C'est un peu l'émission sœur de ce que nous faisons aujourd'hui.
D'un côté, oui, moi je me suis beaucoup inspiré, bien sûr, de Christine Barr, parce que je trouve qu'elle met en évidence des choses qui sont centrales.
Il y a un observateur qui est un poète, à côté de Théophile Gautier, plus tardif, c'est Stéphane Mallarmé, dont on sait qu'il a rédigé toute une série de chroniques sur l'évolution de la mode. Je lis en particulier dans son article qui s'appelle « La dernière mode », Monsieur Vorte, qui est un couturier fameux de la fin du XIXe siècle. Monsieur Vorte seul a su créer une robe aussi fugitive que nos pensées.
Oui, non mais Mallarmé est très important, effectivement, parce que à la fois c'est un rédacteur de périodiques de mode, mais en plus c'est le directeur, il a dirigé un périodique de mode, et il est très attentif.
On retrouve tout ça dans la Pléiade.
Oui, et il est très très attentif à la forme, et ce dont il nous parle ici, c'est une forme fluide. Ça me paraît fondamental aussi, vous voyez. C'est le fait que, au fond, dans les années 80-90, s'invente quelque chose que moi je qualifierais de fourreau. Et le fourreau, ça commence à suivre effectivement les formes de l'anatomie. Alors, ça maintient indiscutablement un corset, mais un corset qui vient descendre jusqu'aux jambes pour envelopper en particulier les hanches. Et c'est bien sûr ce corset qui disparaîtra au début du XXe siècle.
Du côté des critiques, comme souvent, il y a un courant qui vient des États-Unis d'Amérique, avec ce bloomerisme qui est intéressant, surtout en comparaison avec d'autres périodes. C'est cette citoyenne de Boston, Amelia Bloomer, qui avait repris le thème d'une égalité d'accès à tous les métiers pour les femmes et par conséquent proposait une transformation du costume. Jupe courte pour ne point gêner la marche, culotte longue pour sauvegarder la pudeur.
Non, je suis très sensible au fait que vous citiez Bloomer parce que ça renvoie aussi à une autre question qui est celle de l'Amérique. l'Amérique qui se veut plus opérationnelle, plus empirique, plus active, vous voyez. Et on voit déjà dans ce milieu du 19e siècle une Amérique qui est une Amérique de l'action et qui va dans le sens aussi d'une égalitarisation. Très important.
Avec des relations avec l'érotisme, la femme comme objet de désir qui évolue dès ce moment-là. On a envie de citer Verlaine, vous rappelez, les ingénues, c'est dans les fêtes galantes, les hauts talons luttaient avec les longues jupes, en sorte que selon le terrain et le vent, parfois luisaient des bas de jambes, trop souvent interceptés, et nous aimions ce jeu de dupes.
Oui, c'est ça, parce qu'on a bien, vous voyez, en permanence, on a bien ce double versant. Le premier versant, c'est l'accès à plus de mobilité. Alors, c'est un jeu entre fixité et mobilité. Bon, ça, c'est un premier versant.
Avec une évolution de l'érotisme, du coup.
Et oui, et puis un deuxième versant, c'est l'érotisme. C'est-à-dire, est-ce que je peux accéder à m'affirmer comme quelqu'un qui assume, finalement, le fait d'attirer du désir ou de ne pas l'attirer? Est-ce que je peux assumer cela? Et cette exigence, on le voit bien à travers l'insistance insensiblement mise sur les formes du corps lui-même. On le voit aussi sur le fait que la jupe va insensiblement se relever et que le chapeau va commencer à s'effacer, etc. Vous voyez, là, il y a bien cette double valence dont la fin du 19e siècle et surtout le début du 20e sont de parfaits exemples.
On s'étonnerait qu'on n'évoque pas ici Georges Vigarello, Marcel Proust. Il y a une évocation du corps d'Odette dans les jeunes filles en fleurs qui mérite d'être restituée. On montre bien comment la silhouette féminine a été subvertie entre 1910 et 1920. C'est ici une lecture par Lambert Wilson.
Le corps d'Odette était maintenant découpé en une seule silhouette, cernée tout entière par une ligne qui, pour suivre le contour de la femme, avait abandonné les chemins accidentés, les rentrants et les sortants factices, les lascis, l'éparpillement composite des modes d'autrefois, mais qui aussi, là où c'était l'anatomie qui se trompait en faisant des détours inutiles en deçà ou au-delà du tracé idéal, savait rectifier d'un trait hardi les écarts de la nature, suppléer, pour toute une partie du parcours, aux défaillances aussi bien de la chair que des étoffes. Les coussins, le strapontin de l'affreuse tournure, avaient disparu, ainsi que ces corsages à basques qui, dépassant la jupe et raidis par des baleines, avaient ajouté si longtemps à Odette un ventre postiche et lui avaient donné l'air d'être composé de pièces disparates qu'aucune individualité ne reliait. La verticale des effilés et la courbe des ruches avaient cédé la place à l'inflexion d'un corps qui faisait palpiter la soie comme la sirène bat l'onde et donnait à la percaline une expression humaine, maintenant qu'il s'était dégagé, comme une forme organisée et vivante, du long chaos et de l'enveloppement nébuleux des modes détrônés.
Oh, pour moi, c'est un passage absolument somptueux, parce que il est au cœur du changement. Il est au cœur du changement, il y a plusieurs titres. D'abord, l'anatomie trahie. C'est ce que nous avons dit à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, l'anatomie trahie. Et ensuite, la victoire de quelque chose qui est hors de la ligne. C'est le mot qu'il utilise. La femme devenant un être élancé. Et la femme devenant, au fond, une silhouette précisément dynamique. Ça, c'est très, très, très important. Et le passage de Proust permet aussi la référence à l'érotique. Donc il y a plusieurs données, en quelque sorte, dans la Révolution.
Et en même temps, on est dans un temps, à cheval entre l'avant et après la Première Guerre mondiale, oui, où la situation de la femme évolue beaucoup.
Bien sûr, je pense que la Première Guerre mondiale a joué un rôle fondamental. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que cette dynamique vers, au fond, le fait d'assumer un corps plus disponible, un corps qui peut rentrer dans le travail, etc., cette dynamique, elle date de la fin du 19e. Vous savez, il y a quand même, à la fin du 19e siècle, il y a vraiment des associations féministes qui se groupent, qui essaient d'avoir un impact sur le public, qui essaient d'avoir le soutien d'autorité à la fois médicale et politique en demandant la transformation radicale de la tenue qui existait dans ces années 80-90. Et la transformation radicale, c'est d'une part la fin du corset et d'autre part le fait que la robe tombe droite C'est quand même cela qui est au cœur d'une revendication qui date de la fin du 19e siècle. Alors bien entendu, la Première Guerre mondiale a considérablement aidé ce déplacement. Et elle l'a aidé aussi en touchant un public plus large. Vous voyez, c'est pas seulement une revendication venue de l'élite, c'est une revendication qui touche à ce moment-là une population beaucoup plus large. Et ça, ça me paraît absolument fondamental.
Parce que les femmes se sont mises au travail par force.
Exactement.
Pour remplacer les hommes qui étaient au front. Il n'était plus question d'avoir ces poufs qui avaient déformé la silhouette un peu en S.
En S, oui,
en
c'est
S,
ça.
En S avant 1914.
Oui, absolument.
Ces poufs, comment décrirait-on le pouf?
Ben, le pouf, c'est une sorte d'accentuation de la cambrure arrière, vous voyez. D'accentuation de la cambrure jusqu'à l'horizontale, d'ailleurs.
Les années 20, c'est celle de la garçonne, et là tout change.
Alors les années 20 inventent encore quelque chose de nouveau, tout change, comme vous le dites, c'est effectivement très très important, parce que la garçonne, par le simple mot, symbolise des choses très importantes. Le simple mot, c'est nous avons accès, vous voyez, nous avons accès à ce que font les garçons. Autrement dit, ça porte sur, nous pouvons avoir des métiers extrêmement différents, nous pouvons avoir des activités extrêmement différentes, nous n'oublions jamais, jamais le rôle qu'a joué le loisir. Et dans le livre, mes amis du Seuil m'ont beaucoup aidé à montrer la présence du loisir et la présence de l'activité. C'est pas seulement des loisirs de l'élite, ce sont aussi des loisirs populaires, la course, l'athlétisme, qui changent véritablement la nécessité de déplacer les formes.
Et la mer aussi, qui
voilà.
La plage qui devient importante.
Alors la mer, c'est très important parce que ça joue deux fois. Ça joue à la fois sur le fait que certaines parties de la peau apparaissent alors que jusque-là, elles étaient totalement couvertes. Et ça joue sur le fait que la silhouette qui s'impose, c'est vraiment une silhouette qui est totalement fidèle à l'anatomie. Alors jusque-là, elle ne l'était pas.
Alors venons-en à la période la plus récente, Georges Bigarello, où progressivement la femme accède à la capacité, je parle des la bourgeoisie en particulier, à la capacité de travailler, de s'extraire du carcan de la vie exclusivement privée, et du même coup, s'installe une sorte de commerce, de dialogue entre la nature des robes dont nous parlons ce matin et la situation de la femme. Comment verriez-vous cela pour la période qui suit la Seconde Guerre mondiale?
Ce qui s'installe, c'est une extension du salariat et donc de l'autonomie. Et cette autonomie veut dire la participation précisément à l'espace public. Ce qui était déjà engendré, mais ce qui va s'affirmer de plus en plus et ce qui va se diffuser. Or, la participation à l'espace public, c'est la possibilité de disposer de son corps. Et vous savez, on le voit aussi bien dans la tenue masculine qui va changer, qui va respecter davantage l'anatomie qu'elle le faisait auparavant, le costume plus serré, la chemise plus ajustée, etc. La tenue masculine change, ne l'oublions jamais. Et bien entendu, la tenue féminine non seulement change, mais se révolutionne. Et se révolutionne de plusieurs façons. À la fois parce que c'est la forme qui va aller dans le sens de l'élancement, pour reprendre les remarques que faisait Proust lorsque nous l'avons lu, mais c'est aussi les matières, sont aussi les matières qui vont changer. Le nylon, par exemple, va jouer un rôle très important dans la manière dont il autorise des mouvements qui jusque-là semblaient plus ou moins interdits. Et quand vous regardez les revues de mode, eh bien, vous êtes frappé par le fait que dans ces revues, de plus en plus figure le mouvement, le pas qui s'accroît, le fait que les femmes sont représentées non plus en position hiératique comme la tradition le voulait, mais assises, parfois assises par terre, dans un mouvement, dans un geste, etc. Et ça, évidemment, c'est très important, parce que c'est vraiment quelque chose qui, au fond, précède, je dirais, notre propre temps. Nous sommes les enfants, à mon avis, de ces périodes des années 60-70.
Auparavant, il y a eu la petite robe noire de Chanel, mais en 1926, c'est une prémonition.
Je trouve que la tenue de la garçonne, c'est incontestablement une prémonition de ce qui va se passer après. Et la tenue de la garçonne se manifeste par, bien sûr, la présence des hanches, l'apparition du bas. Pourquoi? Parce que la robe va se retrouver un peu plus élevée. Et ces fameuses tenues qui sont totalement fluides. Et ça, évidemment, c'est fondamental.
Et puis, pour cette période, il faut naturellement écouter toujours les grands couturiers,
ouais.
Georges Vigarello, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire sur l'idée qu'ils se font de l'évolution de la mode féminine, de la robe en particulier, et de ce que cela veut dire par rapport à la société, notamment par l'émergence du travail féminin dans les classes bourgeoises. Écoutez cette interview de Christian Dior par Liselina le 3 août 1954. Il évoque la fameuse ligne H.
La mode ancienne est révolue, la mode nouvelle est née. La mode nouvelle, c'est la ligne H de Christian Dior. Cette ligne H va-t-elle changer la femme? C'est ce que Christian Dior va nous expliquer.
Elle ne va pas la changer, on ne change jamais la femme, mais elle va lui donner un nouvel aspect. les femmes nouvelles se trouvent agrandies et amincies. Ligne H, c'est aussi ligne de hanche. Les hanches ont une grande importance cette saison. Dans certains journaux, j'ai lu que je voulais faire disparaître les hanches. Il n'en est pas question. Dans certaines robes, même, je les ai accentuées. Toutes les robes larges partent à peu près à la hauteur des hanches et sont très faciles à porter pour toutes les femmes qui ont des hanches et même plus que des hanches. Vous me comprenez, Lise?
Et parmi les tissus choisis?
Eh bien, les tissus sont de vrais tissus. C'est de la vraie bonne laine, de la vraie bonne soie, bien soyeuse, bien brillante et bien douce. Mais il y a aussi du nylon. Il y a cette saison un velours de nylon qui est absolument merveilleux. On peut s'asseoir dessus, le laver, recevoir la pluie et être parfaitement élégante.
Et pour le soir, les robes du soir sont courtes ou longues?
Eh bien, il y a beaucoup de robes longues et beaucoup de robes courtes. C'est une réponse de Normand, mais je le suis. Mais vous savez bien que la façon de s'habiller dépend tellement de l'endroit où l'on doit aller. Je n'aime pas voir dans un grand bal une femme en robe courte, elle est toujours minimisée. Enfin, ça ne convient pas à un grand bal. Par contre, je n'aime pas voir dans un cabaret une femme dans une robe longue extrêmement ample. Elle est déplacée et elle a l'air de venir là pour vouloir faire ses effets, ce que je trouve toujours tout à fait déplaisant.
Période de transition, Jean-Jacques Garlot, vers notre présent.
Oui, période de transition et d'affirmation.
Alors, on est en 54.
La ligne H veut bien dire quelque chose qui est assez droit, vous voyez. Et cette insistance sur la femme agrandie et elle s'est amincie, c'est une insistance très importante. Mais moi, je pense qu'il y a un travail sur les hanches. Et les hanches ne doivent pas être aussi importantes qu'elles ne l'étaient. Et dans la mesure où il y a un rapprochement avec la tenue masculine, qui est celle précisément de l'activité, et tout ce qui est un peu trop large, tout ce qui peut peser, tout ce qui peut ralentir, est évidemment péjoratif.
Donc ce qui se dissout en partie, c'est l'affirmation d'une différence majeure entre les deux sexes.
En partie, oui, indiscutablement.
Eh bien, c'est là que nous quitterons le sujet que nous avons évoqué aujourd'hui avec vous, Georges Vigarello, l'histoire culturelle de la robe, un ouvrage qui est publié au Seuil, qui a été publié tout récemment, et sur lequel nous avons fondé cette conversation. Très précieux ouvrage, comme nous sommes à la veille du réveillon, je le recommande pour les ultimes cadeaux. Vous avez également publié un ouvrage sur le sentiment de soi, l'histoire de la perception du corps, paru en 2014. Au fond, cette histoire de la robe conduit...
Oui, cette histoire de la robe conduit, parce qu'on voit bien que ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est la façon dont on l'éprouve, la robe. Et moi, ce qui m'avait frappé dans la culture du corps récente, c'est l'importance que l'on donne à l'intérieur. Et donc, vous avez cette expression que j'utilise beaucoup dans ce livre, c'est la robe de soi. C'est-à-dire la robe qui n'est pas soi, S-O-I-E, mais qui est la robe de soi, la nôtre. Celle que nous portons et que nous éprouvons, et qui est en concordance avec ce que nous montrons et ce que nous ressentons. Ça me paraît fondamental.
Vous avez publié aussi une histoire de la beauté, le corps et l'art d'embellir, de la Renaissance à nos jours, un ouvrage qui a été réédité tout récemment en poche collection Point au Seuil en 2014. Et enfin, je voudrais rendre hommage au livre de Christine Barr, une histoire politique du pantalon, qui a été publié au Seuil en 2010 et qui avait été, je le rappelle, l'occasion d'une émission encore disponible en ligne que nous avions faite avec elle le 17 novembre 2012. Vous trouverez une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, les documents sonores, les chansons. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du purgatoire. Le purgatoire qui paraît n'être pas très en forme par les temps qui courent. Nous en parlerons avec Guillaume Cuchet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur et de Jeanne Guéroux, réalisée par Anne Kobilac, avec Julien Douminc à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sandra Escamez. Et maintenant, comme chaque samedi, Christine O'Krent, Affaires étrangères.